de la quotidienne, on retrouve aujourd'hui un invité que nos auditeurs connaissent bien pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, Jean-Marie Cerroni, un agroéconomiste français, bien connu dans plusieurs médias outre-Atlantique. Bonjour Emmanuel, qui nous accompagne aujourd'hui dans ce podcast.
Bonjour.
Emmanuel, notre journaliste collaboratrice depuis quelques semaines à La Vie Agricole, qui va participer donc à cette entrevue avec Jean-Marie Cerroni. Comme je le disais, Jean-Marie a aussi été un des porteurs de la mission que l'Institut Jean Garon a réalisée en 2022, en octobre 2022, pour aller rencontrer les producteurs laitiers français. Il a été en fait un des acteurs de cette mission de l'Institut. Et aujourd'hui, on lui parle de l'accord du libre-échange, puisque tout le monde est resté un petit peu surpris en fait que le Sénat français en fait recale l'accord Canada-Europe, alors qu'on avait une lecture plutôt comme quoi les viticulteurs français, les producteurs laitiers français, les transformateurs de fromage français étaient plutôt gagnants, puisqu'on parle de 33% d'augmentation des exportations en 7 ans. Alors Jean-Marie, expliquez-nous ce qui se passe en France en ce moment avec le CETA.
Alors, je crois qu'on ne peut pas dire que ça ne fait plus l'affaire. Il faut rappeler, il y a deux choses qu'il faut voir. C'est le processus institutionnel. Pourquoi c'est ratifié maintenant, alors que l'accord a 7 ans, et ensuite de voir effectivement pourquoi il y a ce vote négatif. Ça ne veut pas dire que l'accord n'est pas ratifié, hein. Je vais expliquer. Et alors qu'effectivement, l'accord a permis de développer le commerce et de manière assez équilibrée globalement, et pour la partie agricole française européenne même, n'est pas défavorable. Alors, cet accord. C'est compliqué à comprendre. Les accords bilatéraux sont négociés par l'Union européenne, dans le cadre d'un mandat de négociation. Et donc, a priori, n'ont pas besoin d'être ratifiés par les États, dans la mesure où la Commission respecte son mandat de négociation. Là, c'est ce qu'on appelle, alors je redis parce que je ne suis pas un grand spécialiste juridique moi, c'est ce qu'on appelle un accord mixte, c'est-à-dire dedans il y a des clauses commerciales qui relèvent de la compétence de l'Union européenne et pas des États, c'est très curieux comme mécanisme, et il y a des chapitres qui concernent ce qu'on appelle l'investissement et qui là sont de la compétence des États.
La commission peut appliquer l'accord, sauf que la commission doit aller chercher l'appui de chaque parlement souverain.
Voilà, c'est-à-dire que il y a une partie de l'accord peut être mise en place sans les ratifications, et il y a une partie qui ne pourra être mise en place que quand ça sera ratifié, qui n'est pas mise en place aujourd'hui. Okay. Ne me demande pas ce qu'il y a, ça ne concerne pas l'agriculture, dont je ne connais pas bien. Par contre, la partie qui est applicable, l'Union européenne a décidé de l'appliquer tout de suite avant la ratification. Mais sachant que la ratification par un État, elle est globale. L'État ratifie l'ensemble, y compris ce qui est de la compétence de la Commission européenne. Et donc, il y a aujourd'hui 10 États qui n'ont pas ratifié, pas encore. Et dans les 10, il y en a un qui a rejeté. Et il suffit qu'un rejette pour que l'accord soit caduque. Alors on peut se dire, pourquoi l'accord n'est pas caduque? Parce que quand le Parlement national rejette, et puis suivant les États, l'organisation du Parlement n'est pas la même, en France il y a deux chambres, je vais revenir dessus, c'est Chypre, je crois, qui n'a pas validé, le Parlement a refusé, mais pour que ce soit applicable, il faut que l'État notifie le vote à Bruxelles. Et Chypre ne l'a pas encore notifié, ça fait, je ne sais plus, 1, 2, 3 ans. Ils ne l'ont pas notifié. Donc on peut se demander si c'est un déni de démocratie, mais ils ne l'ont pas ratifié.
C'est la même chose pour la France. Là, actuellement, le Sénat le rejette. Voilà. Si ça retourne devant les députés, tant que la France n'aura pas notifié,
En France, le Parlement l'a ratifié. Enfin, par le Parlement. L'Assemblée nationale l'a validé en 2019, il y a 5 ans. C'était déjà Emmanuel Macron, ça a été une grande discussion, mais En Marche était majoritaire, et donc ils l'ont ratifié. Ils ne l'ont pas soumis au Sénat, puisque le Sénat est détenu par la droite, et craignant que le Sénat refuse. Mais c'est la politique de l'autruche, en fait. Hein. On a, dans chacune des deux assemblées, on a ce qu'on appelle les niches parlementaires. C'est-à-dire qu'il y a une ou deux fois dans l'année, où chaque groupe politique a la maîtrise de l'ordre du jour. Et donc le Parti communiste avait la maîtrise de l'ordre du jour le 20 ou le 21 mars, et donc il a mis à l'ordre du jour, c'est pas le gouvernement qui l'a mis, c'est le groupe communiste qui a mis à l'ordre du jour du Sénat la ratification de l'accord.
Et c'est là qu'il s'est associé avec la droite pour faire tomber l'accord.
Voilà. Et voilà. Et il y a eu un vote de pas tous les sénateurs républicains, mais une grosse majorité, des sénateurs communistes, des sénateurs socialistes, alors que l'accord avait été conclu sous la présidence de François Hollande, donc à majorité socialiste. Et bon, il doit y avoir, il y a très peu de sénateurs, je ne sais même pas s'il y a sénateurs Front National, je ne sais plus très bien.
Mais au final, est-ce que ça, c'est dans le contexte des élections européennes qui s'en viennent, et finalement, c'est une bataille pour se faire valoir auprès des producteurs, plus qu'autre chose?
Voilà, je pense qu'il y a trois, mon analyse, c'est qu'il y a trois éléments qui jouent. Il y a d'une part, effectivement, la grogne des agriculteurs. Et les sénateurs sont des élus de territoire, et ils sont élus par les maires et les conseillers municipaux, les sénateurs. C'est pas un vote direct, hein. Et donc ils sont très sensibles à ça. Il y a bien sûr la préparation des élections européennes, où s'ils peuvent coincer le gouvernement, ils vont pas s'en priver. Et puis je pense qu'il y a un troisième élément, c'est que le patron du groupe communiste, alors à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, donc qui est quelqu'un qui a du poids, et du Massif central. Donc il doit être très proche du syndicalisme de la viande bovine, puisque c'est la grande zone de production de la viande bovine. Je pense qu'il y a tout ça qui joue.
Oui, mais justement, tu parles de la viande bovine. C'est là où je trouve ça un petit peu étonnant, ce qui vient de se passer. Enfin, je comprends de tout le contexte, les élections européennes, le malaise des agriculteurs. Il faut que politiquement, quelqu'un, à un moment donné, réponde aux agriculteurs, même si à long terme, je ne suis pas certain que la fin de l'accord Canada-Europe soit bon pour eux, mais à court terme, ça prend un besoin de recentrer sur le souverainisme français. Mais au final, hein, les producteurs de bœuf qu'on entend à la télé qui disent c'est dangereux parce que la viande bovine du Canada va arriver chez nous, il me semble qu'avoir lu que dans cet accord-là, justement, le problème au Canada, ce qu'on dit, c'est le contraire. C'est qu'on dit on a signé un accord, mais la production bovine, elle ne peut pas se rendre en Europe. Parce que malgré l'accord, il y a des clauses particulières qui font que si la viande est élevée aux hormones, elle n'a pas le droit de rentrer en Europe.
Tout à fait.
Et 95% de la viande ici est élevée aux hormones. Il y a 6 fermes au Canada.
Voilà, c'est ce que je disais. J'avais tout à l'heure, avant de vous avoir, j'étais interviewé par France Info, et c'est exactement, je n'étais pas trop peu de mémoire, je gardais l'histoire des 6 fermes. Parce qu'effectivement, il y a une mesure européenne qui dit qu'on ne peut pas importer dans l'Union européenne de viande anabolisée. Bon, alors, les producteurs de viande disent leur argument. Ils ont une chargée d'affaires publiques là qui est très très active, qui dit mais pourquoi les Canadiens auraient négocié un quota de 65 000 tonnes de viande bovine si c'est pas dans l'idée un jour d'exporter, et ils disent mais le marché chinois va devenir plus compliqué, le marché américain va devenir plus compliqué, ce que personnellement je ne crois pas, puisque la production, je crois, baisse aux États-Unis, et donc demain, les Québécois, les Canadiens vont chercher à exporter en France. Pour moi, il y a deux éléments. Vous ne pouvez exporter que si vous montez une filière sans hormones. Est-ce que c'est dans les projets? Et puis, deuxièmement, la viande non anabolisée, enfin, on m'a toujours dit que le fait d'anaboliser la viande augmentait le rendement technique de l'ordre de 15%, 20% dans ces eaux-là. Donc, une viande non hormonée va revenir plus chère, puisque le rendement technique va baisser.
Ouais.
Et donc, l'équilibre économique va peut-être se retrouver. Et il y a un deuxième élément... qui est mis en avant par les producteurs de viande bovine, et puis je t'expliquerai après pourquoi, enfin, à mon avis, ils font ça. Le deuxième élément, c'est de dire, dans les importations, on n'a pas le droit non plus d'importer de la viande dont les animaux ont eu des antibiotiques activateurs de croissance. Ça fait partie de l'accord, hein, les conditions sanitaires. Or, l'Union européenne, comme preuve, demande un certificat. Puisqu'on ne peut pas le voir, ça ne se détecte pas, je crois. Demande un certificat. Et donc, les producteurs de viande bovine disent tout ça, c'est bidon. Moi, je leur dis, mais attendez, vous allez considérer que les vétérinaires canadiens sont tous des voyous et signent n'importe quoi. On peut, je veux dire, il y a plein de contrôles qui sont faits à partir de certificats de profession, réglementés, oui, quelque part réglementés. Parce que un vétérinaire, quand il fait de la, de la santé publique, il est assermenté, il est tenu. Voilà. Donc, voilà les arguments. Alors, on peut se poser la question, pourquoi les producteurs de lait, les producteurs de vins spiritueux, comme tu dis, ne disent rien?
Ben, c'est ça que j'allais dire, parce le monde du vin, c'est quand même celui qui a le plus profité, j'imagine, de cet accord.
Bien sûr.
Puis le monde du lait, il faut comprendre qu'ici, avec le système de gestion de l'offre, dont on a déjà parlé avec toi, de toute façon, on n'est pas un gros danger sur l'exportation.
Tout à fait. Et donc, après, c'est des équilibres internes à la profession agricole. La FNSEA est extrêmement discrète sur la question, parce qu'ils sont, ils sont pris entre deux feux avec les producteurs de viande bovine. Et puis derrière, il y a un autre élément aussi qu'il ne faut pas oublier, j'ai oublié d'en parler. C'est que on a l'accord avec le Mercosur. Donc l'Argentine, le Chili, le Brésil, et puis je ne sais plus, l'Uruguay, je crois, qui dormait et que les deux parties essaient de réveiller. Et donc avec l'Amérique du Sud, la question des hormones, des anabolisants, oui, des hormones, joue beaucoup moins qu'avec l'Amérique du Nord. Et donc, ils ont très très peur, et le président de la République a dit qu'il ne validerait pas cet accord, alors qu'on se pose, enfin moi je me pose vraiment des questions sur le fait que cet accord, qui est soutenu par l'Espagne et par l'Allemagne notamment, je ne pense pas que la France ait les moyens juridiques et encore moins les moyens politiques de le bloquer. Donc le CETA, il est un peu victime de ça. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que ça va revenir à l'Assemblée nationale, mais il faut que quelqu'un le mette à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc le gouvernement va sans doute pas le faire tout de suite, mais le groupe communiste va sans doute utiliser une niche parlementaire qu'ils ont juste avant les élections européennes, la semaine précédente. Mais moi, je ne suis pas sûr que le Parlement vote contre. Parce que ce sont des députés. C'est pas du tout la même façon, c'est pas du tout le même personnel politique que les sénateurs. C'est les gens des Républicains qui vont avoir la clé. Hein. Y a beaucoup dedans d'électeurs, de députés urbains. Ils sont moins liés au territoire que les sénateurs. Donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et est-ce que les communistes vont le faire? Est-ce qu'ils vont attendre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je rejoins ton questionnement. Aujourd'hui, sur les producteurs de vin et sur les producteurs de lait, l'accord est favorable, même si en volume, c'est pas des très gros volumes. Mais ce que je trouve assez symptomatique, c'est que si j'ai bien compris, on en avait déjà parlé une fois il y a quelques mois. Chez vous, ce sont les producteurs de lait qui sont remontés contre le CETA. Disons, on se fait avoir. Chez nous, ce sont les producteurs de viande.
C'est ça, pour l'importation de fromage français, en fait, qui arrive de façon conséquente.
Voilà, on a augmenté de 60%, mais l'accord, il porte sur 16 000 tonnes de fromage, donc c'est quand même pas monstrueux au niveau européen. Mais ceci dit, je ne sais pas si vous partagez, mais c'est un petit peu dur ce que je vais dire. Mais c'est symptomatique, chez nous, Français, que ce soit les producteurs de viande qui crient, parce que c'est une des filières les moins compétitives. Qui a le plus de difficultés et les moins compétitives, parce que c'est celle qui touche le plus de subventions. Et ça n'aide pas à être compétitif. Et j'ai un peu le sentiment que chez vous, c'est la même chose, non pas par les subventions, mais par la gestion de l'offre. Et on avait souvent discuté que chez vous, c'est un des pays où les coûts de production sont les plus élevés. Et la compétitivité la plus basse.
C'est un des pays où le lait à la ferme est le mieux payé, on va dire.
Voilà, voilà. Et donc ça pousse pas à être compétitif.
Je pense qu'Emmanuel a quelques questions, Jean-Marie.
Oui, si oui. On peut revenir un petit peu sur les européennes, en quoi concrètement ça pose problème pour cet accord? Pourquoi ça fait autant barrage?
Alors, ce n'est pas l'accord en soi aux élections européennes qui fait barrage. Mmh. C'est la dimension politique de dire on va... comment dire? D'une part, on va prendre des mesures qui sont favorables aux agriculteurs, enfin, favorables aux agriculteurs. Je pense que ça n'est pas favorable aux agriculteurs, mais qui est dans le sens de ce qu'ils demandent, ceux qui crient le plus fort. Mm-hmm. C'est pas forcément ce qui est favorable, hein. On est bien d'accord. Donc, pour essayer de grappiller des voix, même si les agriculteurs qui votent communistes, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais, voilà. Et d'autre part, le paysage politique français tout de suite aux élections européennes, donc le Front National est largement devant dans les estimations, autour de 30%, hein, peut-être même légèrement au-dessus des dernières estimations. Ouais. Donc c'est un vote contestataire avec beaucoup de votes agricoles. Hein. Et donc, ils se disent peut-être qu'en faisant cette mesure, on va déporter quelques voix du Rassemblement National, voilà. On a derrière En Marche, qui est à peu près 10 points derrière. En Marche, il n'a pas encore commencé à faire campagne. Et la gauche se dit, peut-être qu'on va, se faisant affaiblir encore plus En Marche. Et la gauche ne s'est pas unie aux élections. Je crois qu'il y a 4 ou 5 listes. Mais notamment, il y a une liste, la liste socialiste qui est menée par Raphaël Antoven, et un philosophe. Et en fait, un philosophe, un intellectuel, je veux dire.
Antoven ou Glucksmann?
J'ai fait un lapsus.
C'est un philosophe Glucksmann, aussi. C'est un philosophe aussi, mais c'est
pas... Je me suis mélangé les pinceaux sur le... Je me suis ramassé les pinceaux sur le... Sur l'histoire philosophe. Ouais. C'est Raphaël Glucksmann, ouais. Tu as tout à fait raison. Et lui, il semblerait qu'il... Bon, il est pas haut, hein, mais qu'il monte. Donc, je me dis, les gens de gauche, enfin, les gens du Parti Socialiste qui ont voté contre l'accord, alors qu'il avait été mis sous une... sous mandature socialiste, ce qui est un peu curieux quand même, hein, et ils se disent, on va peut-être gagner des voix en faisant ça. Donc c'est un paysage vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et au niveau européen, il y a encore 10 pays qui, 7 ans après, il y a 10 pays qui n'ont toujours pas ratifié. Mmh. Ce qui montre bien que notre système, il y a quelque chose qui ne va pas dans le mode de... On délègue, à partir du moment où on délègue un mandat de négociation à l'Union européenne, qu'elle respecte ce mandat, on n'a pas à ratifier dans chaque pays, sinon on s'en sort jamais.
Est-ce que, dans le cadre des élections européennes, comme disait Emmanuel Tola, est-ce que le Front National s'est positionné très clairement, lui, en défaveur de l'accord?
Ah oui, il s'est de toute façon, le Front National, lui, il serait pour exporter sans importer, quoi.
Oui.
Ce qui plairait beaucoup aux agriculteurs.
Non, il est farouchement opposé à ça. Mm. Okay. Mm. Alors après, pourquoi les producteurs de viande bovine sont autant virulents et pourquoi ils neutralisent complètement le discours de la FNSEA? C'est quand même une vraie question. Sachant qu'il n'y a pas que la FNSEA, hein, la coordination rurale est farouchement opposée.
Ouais.
Et la coordination rurale.
Elle a presque fait autant de bruit que la FNSEA, la coordination rurale, en fait, pendant les manifestations.
Ah, pendant les manifestations, mais qui ne portait pas sur la viande, oui, ouais. Qui portait de manière beaucoup plus large.
Ouais.
Et je pense que la coordination rurale va tirer un peu les marrons du feu, hein, de l'opération.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de la part de la FNSEA? Parce que finalement. Je comprends que c'est une question de répondre aux besoins immédiats des producteurs qui disent on n'en peut plus, il faut moins de normes, moins de ci, moins de ça. Donc on essaie de trouver des réponses, c'est un peu comme fait le gouvernement, on essaie de trouver des réponses en leur disant on va s'occuper de vous, même si on sait que ça ne se fera pas en criant lapin comme ça demain matin. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie de la part de la FNSEA finalement de laisser partir un potentiel d'exportation pour des secteurs importants comme le lait et le vin sans en parler, en fait?
Ah ben. Je suis d'accord avec ça. Et je vais demain là. Enfin, après demain, il y a le congrès de la FNSEA. Le congrès annuel, il est mercredi et jeudi. Enfin, mardi, mercredi et jeudi. Mais les personnes extérieures ont été invitées mercredi après-midi et jeudi. Donc, je pense que ça va être assez chaud. Enfin, j'y vais là. Je pars demain. Demain sur Paris, j'ai un truc demain soir et puis je vais là-bas. Mais effectivement, mais la FNSEA, elle a toujours été prise entre deux feux et pour des raisons que je n'ai jamais compris, pourtant je pense assez bien connaître le monde agricole, la Fédération Nationale Bovine, donc comme son nom l'indique, ce qui traite surtout les vaches allaitantes, a un poids démesuré. Je ne comprends pas. Pendant longtemps, les présidents de la République étaient issus de cette zone-là, mais ça fait un moment que ça n'est plus le cas. Et par exemple, les aides directes à la vache allaitante, la FNSEA était plutôt contre. Et en fait, la Fédération Nationale Bovine a réussi à ce que la FNSEA n'aille pas contre ces aides à la vache allaitante, alors qu'elle était majoritairement contre. Donc c'est assez, ils ont un poids important.
Jean-Marie, en conclusion, peut-être une dernière question d'Emmanuel.
Oui, selon vous, est-ce que vous pensez que si on remanie un petit peu ce projet, est-ce qu'il est susceptible de passer?
Nous, on ne peut pas le remanier puisque c'est un projet européen. Il y a déjà 16 ou 17 pays qui l'ont ratifié.
Oui. Dans les...
Donc... Alors, l'autre point de cet accord, critiquable, alors là, je partage, autant sur les deux autres, je ne partage pas trop, mais là-dessus, je partage, même si ce n'est pas ce qui est mis sur le devant de la scène, c'est un vieil accord, hein, puisqu'il a été négocié quand même il y a longtemps. Donc, sur les questions de bien-être animal, sur les questions d'environnement, il n'est pas aligné sur les derniers accords que l'on signe, notamment bien en signé avec le... la Nouvelle-Zélande et puis alors, le Chili, je ne sais plus où c'en est, mais oui, je crois que c'est le Chili. Enfin, la Nouvelle-Zélande vient d'en signer un qui, sur les questions environnementales, est plus dans le coup que l'accord du CETA. Par contre, il y a aussi quelque chose que les gens ne reconnaissent pas dans l'accord du CETA. Il y a une très grosse avancée sur les appellations d'origine contrôlée. Je crois qu'il y a 178 AOP ou entre 170 et 180 AOP que vous avez reconnus, alors que c'est pas... en Amérique du Nord, vous êtes plutôt sur des marques que sur les signes officiels de qualité. Et donc là, vous reconnaissez les AOP. Donc c'est aussi, pour l'agriculture française, un point important. Donc moi, je pense que ça n'est pas... c'est pas raisonnable en matière agricole de pas le signer. Je pense que le gouvernement a complètement raison en disant qu'il faut absolument le ratifier. Et qu'est-ce qui va se passer, ça, j'en sais rien.
Jean-Marie, merci beaucoup. C'est tout le temps qui nous reste pour aujourd'hui. Au plaisir de vous reparler dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup.
Au revoir.